conseiller régional David Géant est notre invité.
Il a répondu à mon invitation et je l'en remercie. Bonjour David Géant.
Bonjour François et merci pour l'invitation.
Nous avons beaucoup de choses à voir avec vous. Vous êtes conseiller régional, je le rappelle, depuis 2015. C'est votre premier mandat. Vous êtes aussi conseiller municipal à Fort-Calquier depuis pas très très longtemps. Nous allons y revenir. Vous êtes évidemment sur la liste des Républicains dans le département des Alpes de Haute-Provence. Et depuis peu, vous avez obtenu une présidence à la région dont nous allons parler parce qu'on est concerné directement. Vous êtes président de la commission territoire et infrastructure numérique. Votre expérience de bas alpin doit jouer à la région.
Beaucoup, j'en suis convaincu, et je pense que ma nomination d'ailleurs à ce poste de président de la commission aménagement du territoire et infrastructure numérique est dû au fait que je sois issu aussi d'un département rural, d'un département qui est celui des Alpes de Haute-Provence. Cette commission a un panel très large, celui de l'aménagement du territoire au sens large, puisqu'on sait que l'aménagement du territoire, c'est quelque chose de transversal. Tout dépend de là où on se situe, dans une région qui est extrêmement hétérogène, entre des territoires littoraux composés de métropoles très peuplées, avec des moyens financiers conséquents, et puis des territoires un peu plus ruraux, peut-être moins peuplés, avec des richesses moindres. Donc il faut réussir à ajuster le curseur de l'aménagement du territoire et à faire preuve d'équité territoriale, qui est une volonté forte du président Renaud Muselier. Et donc je m'attelle à ça, à la présidence de cette commission.
Il faut avoir un sacré don d'observation aussi, parce que le territoire est diversifié sur PACA.
Extrêmement diversifié. PACA. Sud-Provençal-Côte d'Azur. Merci de le signaler, cet acronyme PACA qui ne signifiait pas grand-chose. Oui, il faut bien sûr être à l'écoute, j'ai envie de dire, des besoins réels des territoires. Moi, je suis évidemment sensible aux besoins des territoires les plus ruraux en étant issu. C'est pour cette raison que je m'attelle à notamment l'aide au territoire au travers du Fonds régional d'aménagement du territoire qui sert à venir financer des projets d'aménagement, d'investissement des communes. Et on sait que les communes, malheureusement, aujourd'hui, sont dans une situation notamment budgétaire et financière qui n'est pas évidente après des années de baisse de dotation, avec des maires qui en ont ras-le-bol aussi. On le voit au travers de nombreux médias nationaux et locaux. Plus de 1000 maires qui ont démissionné depuis le début du mandat en France, certains dans notre département aussi.
Il y en a une vingtaine dans le département des Alpes de Haute-Provence.
Ce qui est conséquent hein, sur un département de 198 communes, ça fait quasiment 10%. Donc on voit qu'il y a un véritable mal-être et je pense que si le conseil régional ne va pas soutenir justement ces élus locaux, bien malheureusement c'est beaucoup de projets qui ne verront pas le jour.
Alors bien sûr, les communes, mais aussi les entreprises, les associations ont besoin de temps en temps du coup de pouce de la région. C'est le cas d'ailleurs des radios associatives, vous le savez bien, et nous l'avons dit sur notre antenne et ailleurs. Une volonté de la région de pouvoir innerver sur le territoire toutes ces politiques de aussi bien d'aménagement du territoire que d'infrastructure numérique, nous allons en parler aussi dans un instant. Et malheureusement, ce qu'on entend de la région venant de la part de Renaud Muselier, votre président, notre président, c'est « j'ai plus d'argent ». C'est un leitmotiv qu'on connaît aussi bien à Bruxelles qu'à Paris, qu'à Marseille, ou qu'à Digne, ou Gap, par exemple. Et au bout d'un moment, on se dit « mais où on va si plus personne n'a d'argent, comment on va faire ?»
Alors, est-ce que c'est un leitmotiv ou tout simplement une réalité? Ça, j'en sais rien.
Pour c'est un peu des deux.
En tout cas, en ce qui concerne la région, c'est une réalité. Il y a deux choses, en fait. Il y a la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, dont on a déjà pu parler à ce micro, qui a réorganisé les compétences des différentes collectivités. Donc, il ne nous permet plus d'intervenir sur l'ensemble des compétences, mais sur des compétences qui sont très claires, très ciblées. Et puis, il y a la situation budgétaire. Je parlais des baisses de dotation de l'État. Elles sont responsables aussi du désengagement du Conseil régional et d'autres collectivités sur certains pans de l'activité. Et le plus difficile, c'est de trouver justement cet équilibre entre la volonté d'équité territoriale, de soutenir ceux qui sont dans une situation de faiblesse, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, sociétale, qu'elle soit environnementale, au travers notamment de l'aménagement du territoire, et pouvoir avoir une gestion saine des deniers publics en parallèle. Moi, je prends souvent l'exemple d'une famille. Lorsque dans une famille, on dépense plus d'argent par mois que ce qu'on gagne, et bien malheureusement on se retrouve en situation de surendettement et ça devient catastrophique. C'est pareil pour les collectivités. Sauf qu'on a pris le réflexe depuis 10, 15, 20 ans de vivre au-dessus de nos moyens. Ce qui fait qu'on récupère aujourd'hui un conseil régional, et je vais donner deux chiffres parce que je voudrais pas rentrer dans une analyse trop technique, qui a un budget de 2,5 milliards d'euros par an, qui est endetté au moment où on la récupère à hauteur de 2,8 milliards, avec 1 milliard d'euros d'engagement à poursuivre de la majorité précédente. Donc vous imaginez bien qu'en matière de latitude budgétaire, ça restreint forcément nos possibilités.
Ce sont des sommes conséquentes, évidemment. On va revenir à quelque chose de très concret, David Géant. L'aménagement du territoire, ça veut aussi toucher, ça peut toucher au transport, évidemment. Le transport, c'est l'une des compétences majeures de la région. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a des problèmes au niveau des liaisons ferroviaires, notamment dans les Alpes du Sud. Quel regard vous portez sur ces problèmes, ces problématiques ?
Alors, j'ai évidemment un regard dessus, mais je voudrais préciser que ça, ce sont des domaines qui sont extérieurs à ma commission. Là, je me positionne en tant que conseiller régional. Il y a une commission dédiée à la question des transports, qui est un sujet évidemment extrêmement important. J'ai vu depuis quelques mois, en effet, une forme de fronde alimentée, je pense, aussi par certains partis politiques au sujet de cette question du transport dans les Alpes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le président Muselier s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucune fermeture de ligne et aucune fermeture de gare pendant l'ensemble du mandat. Donc je crois qu'on a répondu à une partie de l'interrogation qui est légitime, de se demander si, est-ce que pour des raisons budgétaires ou économiques, on va encore une fois pénaliser les départements alpins, les départements ruraux. La réponse est non, en tout cas en ce qui concerne le conseil régional et en ce qui concerne les lignes ferroviaires.
Où est l'intérêt des populations régionales entre le conflit entre la région et la SNCF, par exemple ?
L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, la délégation de services publics avec la SNCF a un montant conséquent, c'est 300 millions d'euros par an, payé avec l'argent des contribuables, donc avec l'argent des provençaux. Et cette SNCF n'arrive pas à apporter une qualité de service suffisante pour répondre aux besoins. On est champion des jours de grève, on est champion des retards et on est champion des annulations en France. Donc vous imaginez bien que nous, quand on arrive avec, en étant sur la première marche d'un podium aussi catastrophique, on n'a qu'une volonté, c'est d'améliorer les conditions de service pour les concitoyens. Et ça passe par un bras de fer, malheureusement, avec la SNCF qui refuse d'avoir des standards de qualité qui puissent répondre à ce que demande la délégation de services publics.
Lorsque vous voyez, par exemple, une levée de boucliers à Briançon sur le train de nuit, au niveau de la région, c'est très loin, Briançon, de Marseille, c'est la ville la plus éloignée du siège du conseil régional. Comment vous voyez ces hurluberlus, entre guillemets, qui manifestent pour conserver ce train de nuit?
Alors le train de nuit, c'est une problématique nationale, là, c'est pas une problématique régionale. La région est l'autorité compétente en matière de gestion des transports régionaux uniquement. Ce sont pas des huluberlus pour moi, ce sont des gens qui se battent pour maintenir le service public de proximité.
J'avais mis des guillemets,
Bien entendu. Moi aussi, quand je vois des gens se battre pour maintenir du service public de proximité, quand je sais que moi, c'est évidemment ma volonté politique, je me suis engagé en politique pour être le défenseur justement de mon département au sein de la région, qui est un département, là aussi un département rural, eh bien je ne peux que encourager ce type de démarche et être d'accord avec cela. Ça suffit, ça fait des années qu'on perd petit à petit du service public de proximité sur nos territoires, et qu'en parallèle on voit la richesse de notre pays, qui est généralement indexée sur le produit intérieur brut, qui, lui, évolue sans cesse, et en parallèle, on a des conditions de vie qui diminuent, par contre, dans nos territoires. Donc, il faut qu'on se batte tous ensemble.
Un des autres aspects de la présidence que vous avez au niveau de la région, David Géant, c'est les infrastructures numériques. On vous a vu par le passé, notamment dans le cadre du SMO, le syndicat mixte ouvert pour le développement du très haut débit dans le 04 et le 05. Quel est le rôle que vous allez jouer à ce niveau-là ?
Alors justement, tout l'enjeu de cette question des infrastructures numériques passe par le biais du syndicat mixte ouvert Paquet Très Haut Débit. Donc je vais continuer mon action avec Chantal Emeaud, qui est présidente du syndicat mixte ouvert Paquet Très Haut Débit, et avec Françoise Brunteau, qui elle est vice-présidente de la région en matière de numérique, mais notamment des usages numériques. Donc il y a vraiment deux choses qui sont claires, les infrastructures et les usages de l'autre côté, qui sont liés. L'un ne peut pas exister sans l'autre, mais moi je suis concentré uniquement sur les infrastructures. On a pris un retard considérable dans le déploiement de la fibre optique, notamment dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes, pour une raison très simple, c'est que le modèle du syndicat mixte ouvert Paquet Très Haut Débit, qui a été initié par nos prédécesseurs, ils ont été précurseurs dans l'élaboration de ce modèle, mais vous savez, lorsqu'on est les premiers, bien souvent, on essuie les plâtres. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, alors je vais pas rentrer encore une fois dans une analyse technique, le modèle qui a été choisi de gestion, notamment des marchés publics, ne correspond pas à la réalité du terrain. On a mis un petit peu de temps à s'en rendre compte, donc il faut qu'on remette tout à plat pour pouvoir ensuite proposer un calendrier de déploiement qui soit un calendrier qui soit suivi, qui soit réaliste, qui soit pragmatique. Et on a décidé de prendre du temps, là on est dans une phase d'analyse à l'heure actuelle sur ces questions de très haut débit, de savoir quel sera le modèle le plus pertinent, parce qu'on ne veut pas refaire les mêmes erreurs qui ont pu être faites par le passé, avec une volonté d'aller vite, mais sans forcément regarder vraiment avec un œil attentif les réalités du terrain. Aujourd'hui, on est dans une phase de réflexion, et je pense qu'on sera à même d'apporter des réponses sur le renouvellement du SMO, j'ai envie de dire, à partir du début de l'année prochaine.
Je ne vais pas vous apprendre que les attentes sont énormes en ce qui concerne la couverture du haut débit dans certains endroits.
Elles sont énormes et elles sont en plus légitimes.
Bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui, le très haut débit, c'est un levier pour nos territoires qui sont enclavés géographiquement, enclavés d'un point de vue physique, justement de se désenclaver, de pouvoir amener des usages liés à l'économie, liés au social, liés à la santé, liés au vieillissement de la population. Donc c'est un enjeu crucial pour nos territoires. On en est bien conscient et c'est pour ça qu'on on essaie de travailler le plus sérieusement possible pour arriver à aboutir à quelque chose.
Une dernière question qui correspond à la région, avant de passer à Fort-Calquier, David Géhan. Il y a deux entités à la région. Il y a les Républicains, emmenés par Renaud Muselier, dont vous faites partie. Et puis il y a une autre entité qui est le Rassemblement National, mais avant c'était le Front National. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Comment ça se passe, vos rapports avec le RN ou le FN, comme vous voulez ?
On n'a pas plus de rapports que cela, vous savez, dans une collectivité comme le Conseil Régional, il y a toujours des jeux politiques. Donc on voit nos opposants qui se signalent en assemblée plénière, comme par hasard les jours où il y a les médias pour pouvoir retranscrire leur action. Puis le reste du temps, on a une opposition qui est inerte, voire complètement inexistante au Conseil Régional. Donc on n'a pas plus de rapports que ça, hormis à gérer leurs effusions politiques au cours des assemblées plénières.
Fermons la page de la région, si vous voulez bien. Vous êtes depuis peu conseiller municipal à Fort-Calquier, où vous résidez, où vous avez votre famille également. Vous avez pris le relais, entre guillemets, de l'affaire Ginet. L'affaire Ginet, évidemment, les gens connaissent ici. C'est une personne qui était élue, qui avait des responsabilités au niveau départemental pour les Républicains, qui avait des soucis peut-être d'ordre psychologique. Toujours est-il qu'il est parti. Il ne fait plus partie de votre équipe et vous l'avez remplacé. Comment ça se passe au sein du conseil municipal qui est dirigé par, là aussi, le remplaçant de Christophe Castaner qui, lui, est parti pour de toute autre raison à Paris, et donc Gérard Avril qui est, me semble-t-il, La République En Marche, enfin bref, en tout cas, qui est dans la mouvance de Christophe Castaner et que vous avez rejoint donc dans l'opposition à Fort-Calquier.
Je dois dire que donc ceux qui ont remplacé les acteurs de cette élection municipale de 2014 sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus apaisés que ce qu'on a pu vivre dans cette campagne de 2014 qui avait été une campagne particulière. Oui, je suis en effet rentré au conseil municipal de Fort-Calquier. Alors, c'était pas une volonté. J'étais sur cette liste, en effet, en 2014 avec Sébastien Ginet, mais aussi avec beaucoup d'autres qui faisaient partie de cette liste et qui font un travail de grande qualité. Il y a eu une démission. Alors, c'est pas celle de Sébastien Ginet qui m'a fait rentrer, c'est celle de Lionel Deleuil, qui était un de nos colistiers. Et donc, au jeu de ces démissions successives, c'est arrivé à moi de rentrer au sein du conseil municipal et j'ai bien évidemment accepté de rentrer. C'est intéressant pour moi. Deux points. D'abord parce que je vois de plus près la gestion des affaires communales, qui est pour moi un mandat, à mon avis, le plus important aujourd'hui qu'on puisse avoir. Les Français sont très attachés à leur commune, très attachés à leur maire. Ils ont vraiment une vision extrêmement positive. Et on voit d'ailleurs que en termes de participation à ces élections-là, ce sont les élections où il y a le plus de participation. Donc ça me permet de voir en détail le fonctionnement, ce qui est extrêmement intéressant. Moi, je demande toujours à apprendre, à pouvoir découvrir les choses. Je pense que c'est important, surtout quand on a des fonctions publiques et politiques. Et puis le deuxième point qui est intéressant aussi, c'est que je découvre ce que c'est que d'être dans l'opposition. Puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis un jeune élu par l'âge et par le nombre d'années que j'ai eu en responsabilité. Jusqu'alors, je siégeais uniquement avec Renaud Muselier dans la majorité et je découvre ce que c'est que d'être dans l'opposition. Donc au niveau du jeu politique, c'est aussi quelque chose d'intéressant.
Quelle est votre ambition personnelle sur Fort-Calquier ?
J'ai pas à proprement dit d'ambition personnelle.
Je vais être plus clair. Est-ce que vous allez vous présenter en 2020 en tête de liste à Fort-Calquier ?
Alors en effet, la question est beaucoup plus claire comme ça.
Voilà.
Et ça va me permettre d'y répondre. Malheureusement, je vais vous décevoir dans ma réponse. Moi, je considère que c'est pas l'heure des déclarations de candidature. Pour moi, ceux qui se déclarent candidats maintenant, à 18 mois du scrutin, c'est soit ceux qui ont peur de pas être légitimes, donc qui pensent devoir sortir en premier pour se mettre au milieu de la scène politique et espèrent l'occuper de cette manière-là, ou ceux qui ont besoin de soigner leurs égos avec des aventures individuelles, qui ont envie d'être dans la presse, qui ont envie d'être maire, d'avoir l'écharpe, mais qui n'ont pas de projet collectif. Moi, je suis ni dans le premier cas, ni dans le second. Je pense que la politique, c'est quelque chose de très sérieux. Moi, je suis attaché à l'action publique en premier lieu. Je pense que quand on est candidat à une élection, et notamment une élection municipale, on doit d'abord avoir un projet à porter, avoir une équipe, parce que c'est une aventure collective et c'est pas une aventure individuelle, et ensuite on déclare éventuellement une candidature. Ce serait vous mentir que de vous dire que je n'étudie pas la possibilité de le faire. Moi, je suis très attaché à ma commune, j'aime ma commune, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai rencontré ma femme là-bas, mon fils qui est tout jeune est né à Fort-Calquier, j'habite à Fort-Calquier, j'ai investi à Fort-Calquier. Alors, bien entendu, lorsqu'on aime sa commune et lorsqu'on est en plus un élu, on s'intéresse forcément aux échéances à venir. Mais pour l'instant, il est prématuré de prendre une position trop clair vis-à-vis de cela. On verra.
On va pas s'amuser à lire entre les lignes, mais on vous laissera prendre votre décision tranquillement et on observera votre activité au sein du conseil municipal de Fort-Calquier. Dernier élément que je voulais évoquer avec vous, David Géant, c'est la situation au niveau de la Fédération départementale des Républicains. Il y a eu des hauts et des bas aussi, notamment avec Sébastien Ginet il y a quelques années. Problème de renouvellement aussi certainement avec des têtes chenues des Républicains qui sont en train de prendre un repos bien mérité, ça se comprend. Il y a de jeunes pousses qui arrivent au niveau des Républicains. Où est-ce que vous vous situez, vous ? Vous êtes évidemment dans les jeunes pousses.
Alors, oui, moi je suis dans les jeunes pousses avec une particularité, c'est que j'ai quand même un peu d'expérience maintenant en politique aussi avec ces quasiment 3 ans de mandat. Mais bien évidemment, moi je m'inscris dans le renouvellement qui est nécessaire au niveau des Républicains dans les Alpes-de-Haute-Provence. Vous savez, on a subi une double peine, ce qui s'est passé au niveau national avec l'affaire Fillon, qui n'a échappé à personne, et puis ce qui s'est passé au niveau départemental avec les agissements un peu particuliers de celui que vous venez de citer. Bon, donc on est dans une phase de reconstruction. Une phase de reconstruction où, comme vous l'avez très justement dit, il y a ceux qui ont de l'expérience, je pense évidemment à Daniel Spagnou, Éliane Barreil, Bernard Jean-Mé Peralta, qui n'ont plus envie d'avoir de fonction à proprement dite au sein du parti, qui restent là en appui mais qui n'ont plus envie de jouer les premiers rôles. Et puis il y a les très jeunes, dont je fais partie, dont font partie Camille Galtier par exemple à Manosque, Sandra Raponi, Adine, Pierre Catillon, Adine aussi, qui ont envie d'améliorer les choses. Et je crois que cette phase de reconstruction a vraiment commencé avec la nomination notamment de Sophie Vaginet-Ricourt au poste de secrétaire départementale, qui a eu lieu il y a maintenant quelques semaines. Et on avait la rentrée des Républicains dimanche, et j'ai pu me rendre compte d'une chose, c'est que il y a une vraie volonté de bien faire. Après toutes ces difficultés qu'on a rencontrées collectivement, on a pris conscience qu'il fallait mettre les égos un petit peu de côté, essayer d'avancer en perdant ce réflexe de bien planter un poignard dans le dos du premier venu lorsqu'il fait peur, tout simplement, parce que jusque là c'était un sport national chez les Républicains, et je pense qu'il faut pas se voiler la face. Et je crois qu'aujourd'hui on est vraiment dans une volonté de reconstruction collective, et moi je prendrai bien sûr part à cette reconstruction.
Dans un mois environ, il va y avoir l'élection du président départemental, c'est comme ça que l'on dit dans votre parti. Ça veut dire que la période de crise est terminée, ça y est, les boutons sont effacés.
Je l'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une lisibilité qui est donnée. Et vous parlez de la présidence des Républicains, moi je n'exclus pas d'être candidat d'ailleurs à la présidence de la Fédération. J'y réfléchis pour l'instant, je suis tiraillé un petit peu entre la volonté de conserver une forme de liberté, j'ai toujours été assez libre dans ma parole, dans mon action politique, sans tenir compte des clivages partisans, et entre la volonté de rendre l'appareil à un parti politique auquel je suis resté fidèle, malgré les crises qu'on a pu traverser, et grâce à qui je suis conseiller régional aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir prendre ses responsabilités. Oui, je pense que l'orage est passé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter. Au contraire, le plus dur commence, j'ai envie de dire. On a passé la période de crise, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Maintenant, il faut qu'on se prépare pour les prochaines échéances. Et les échéances, c'est les élections locales avec les élections municipales dont on vient de parler, et puis les élections départementales.
Sans oublier les européennes l'année prochaine, mais ça c'est un autre débat. Je vous remercie infiniment, David Géant, d'avoir été mon invité. Puis on a pu parler à bâton rompu aussi bien de la région que de Fort-Calquier que de politique et des Républicains. Voilà, c'est la fin du journal. Merci beaucoup James aussi pour la régie.